Vous êtes sur RTL. RTL.
On refait la planète.
On refait la planète.
Avec Vincent Parisot.
Oui, on refait la planète ce soir avec Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On ne vous présente plus. On rappelle quand même que vous êtes le président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Grand défenseur de la protection animale et bien sûr de l'environnement et de la biodiversité. On va donc parler des oiseaux, de leur diminution inquiétante, mais aussi du bien-être animal. Et on va commencer par ça, parce que cette semaine a été marquée par l'annonce du plan sur le bien-être animal par Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture. Il a notamment annoncé que d'ici fin 2021, la castration à vif des porcelets et le broyage des poussins mâles, de pratiques qui étaient très controversées et que vous dénonciez, ouais, seront interdites. Bah, je veux dire que, sans doute, aujourd'hui, vous dites bravo.
Bravo, non. Je suis désolé de ne pas pouvoir dire bravo. Je dis, je m'en réjouis quand même. Ouais. Mais face à la situation de la condition animale actuellement, c'est vraiment, ce plan, un modeste antalgique pour une immense souffrance.
C'est le minimum, vous voulez dire ?
Ah oui. Je rappelle, moi, j'étais avec Michel Barnier, ministre de l'Agriculture, en 2007. Et déjà, on travaillait sur ce thème, sur un regroupement avec les associations animales et sociétés. Et on avait déjà prévu d'arrêter tout ça. Bon, le broyage des poussins, il faut... le ministre Le Foll a donné 4 millions d'euros à une entreprise vendéenne pour travailler sur la capacité d'identifier les animaux, les poussins, dans l'œuf, comme le fait l'Allemagne. Globalement, ce qu'on peut dire aussi bien pour le broyage des poussins, on a complètement oublié au passage les oies gavées, ben on ne veut pas des femelles, hein, donc on les tue, et c'est la même formule dramatique. Bon, et on se rend compte que finalement, on repousse à plus tard ce qu'on aurait pu faire bien avant.
Vous avez parlé de l'Allemagne. En Allemagne, on identifie le sexe dans l'œuf.
C'est-à-dire qu'on arrive à sexer dans l'œuf.
Du coup, on jette l'œuf.
Hein, voilà. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on voulait faire, tout simplement.
Et c'est pas possible en France, ça.
Eh ben, il va y avoir probablement une alliance avec les Allemands pour s'inspirer de leur démarche, mais on dit que ça marchera en 2021. Je rappelle quand même qu'en 2018, il y a eu la loi agriculture-alimentation. Avec d'autres, on s'est battu pour une succession d'amendements pour un mieux-être animal, dont finalement l'objectif était de s'aligner sur ce qui se faisait de bien dans le reste de l'Europe. On n'était pas révolutionnaires. Tous les amendements, vous m'entendez bien, tous les amendements sur le bien-être animal ont été retoqués. Alors moi, je veux bien que 2 ans après, on nous parle pour dans 2 ans de mesures qui pourraient être prises, mais quel temps perdu et quelle incohérence avec l'attente de la société civile qui a compris qu'on ne pouvait pas conjuguer bouffe et souffrance. Mmh. Voilà, il y a un moment où on se calme. Vous savez, si vous avez une rage de dents, une peine de cœur, que sais-je, ça vous réveille la nuit. Ça vous réveille la nuit. Les animaux vivent cette douleur en permanence. J'ai des chiffres. 27 000 castrés par jour de porcelets. Par jour. C'est ça dont on parle.
Si on a ces difficultés, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas bien les alternatives. Je pense à la castration à vif pour les porcs. L'alternative, c'est l'anesthésie locale.
Oui, par exemple. Et il y en a certains, vous savez pourquoi on les castre. En fait, c'est parce que arriver à l'état de maturité, juste avant la période sexuelle, il pourrait dégager des odeurs qui sont pas bons dans la viande. Bon, alors certains battent les animaux avant cette maturité sexuelle. Il y a plein de démarches. Mais je voudrais dire aussi que on a laissé sur le bord du chemin cette douleur animale. Tout ce qui est, par exemple, l'élevage des lapins, mais c'est une horreur. Vous avez 15 à 20 lapins au mètre carré. On les abat à l'âge de 2 mois. Un quart des lapins meurt avant l'abattage, par mauvais traitement. Mais on est où, là ? Et je le dis en n'étant pas végétarien ni vegan. Je le dis parce qu'on peut faire reculer la souffrance animale. Puis il y a le transport des animaux. Vous vous rendez compte que depuis la France hors de l'Union européenne, on envoie 150 000 bovins et ovins, 32 millions de volailles vers des destinations surréalistes. La Turquie, le Liban, la Tunisie, le Maroc, les animaux peuvent passer 29 heures dans ces conditions. On a vu des convois d'animaux qui duraient 14 jours. Voilà. Où on arrête. Alors nous, on demande simplement, est-ce que ça vous dérange pas qu'on puisse arrêter les convois tous les 8 heures pour que les animaux puissent reprendre des forces? Non. Voilà, on en est là quand même.
Donc, alors vous excusez-moi. Dites, c'est qu'avec ce plan, on est loin
non,
du compte.
Non, voilà. On est loin du compte. Ouais, ouais. Voilà.
Cela dit, le ministre, il a quand même annoncé qu'avec l'Allemagne et l'Espagne, on allait, à partir de l'année prochaine, mettre un étiquetage sur, sur les produits, sur le bien-être animal, c'est-à-dire qu'il informera le consommateur de ce qu'il achète.
Oui, c'est très bien. C'est déjà le cas, du reste, pour les œufs. Mais bon, je m'en réjouis. Ouais. Vraiment, toutes les avancées sont bonnes à prendre. Et ce qu'il y a intéressant dans cette dernière démarche, l'étiquetage, c'est qu'en fond, on passe la patate chaude et c'est une très bonne chose au consommateur. Et vous allez voir que le consommateur, quand il va voir les traitements réservés aux animaux, mais je voudrais qu'on soit clair sur ces traitements et qu'on considère également le transport, l'abattage, etc., peut-être il va réduire sa consommation et faire des choix pour valoriser les petits éleveurs qui font des choses dans des conditions correctes, on va dire.
Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas toujours directement le lien, mais vous êtes de ceux qui disent que respecter l'animal, respecter le bien-être animal, c'est respecter la planète.
Oui, je crois que tout est lié. Vous savez, Léonard de Vinci nous disait il y a 5 siècles, regarde la nature, elle va te montrer le chemin. Et puis bien d'autres philosophes l'ont dit. Pourquoi ? Mais parce qu'on est dans l'harmonie de longue date, au fond. Je suis pas contre le progrès, Dieu sait si on peut se réjouir d'avoir un âge beaucoup plus avancé grâce au progrès, notamment de la médecine, etc. Mais tout est lié. En fait, c'est le vivant. Voyez, je vais vous donner un exemple simple. On a tendance, pour la faune sauvage, par rapport aux animaux domestiques ou de compagnie, à considérer les animaux sauvages comme des espèces, des stocks, des quotas, des volumes. Moi, j'ai vu mourir les oiseaux de l'Erika, 150 000 guillemots de Troie à l'agonie qui arrivaient sur les plages. Je peux vous assurer que c'était plus une espèce d'oiseaux marins, c'était des individus qui souffraient. Quand on fait les travaux actuellement au CNRS, par exemple, sur l'impact du réchauffement climatique sur certaines espèces, ils ont travaillé un truc étonnant sur les lézards vivipares. Et ils ont mis les lézards dans des volières en augmentant de 2 degrés, ce qui pourrait nous arriver, les conditions de vie. Et puis, il y avait des papillons, des batraciens, des trucs. Figurez-vous que les lézards vivipares, ils avaient la possibilité, par des corridors, d'aller à la fraîche, on va dire. Eh bien, ils ont échangé entre eux. Alors, les lézards vivipares, ils ne sont pas comme nous, en train de papoter. C'est par signaux olfactifs qu'ils s'échangent. Eh bien, certains ont décidé d'aller à la fraîche, d'autres de rester, et d'autres se sont interrogés, aller d'un lieu à l'autre. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'individu, lézard vivipare, a la capacité de faire un choix, d'une certaine manière, face à une situation de cette nature, une réaction après réflexion. Ça s'appelle la culture. Moi, j'invite à ce qu'on considère l'animal sauvage au même titre. Or, qu'est-ce qui se passe ? On ne lui reconnaît même pas la qualité d'être souffrant. On l'a reconnu pour les animaux domestiques, qui sont désormais intégrés dans le code civil, pas pour les animaux sauvages. Un chien est sensible, un renard ne le serait pas. Mais enfin, voilà.
Alors, vous nous avez parlé des oiseaux de l'Erika. Je rappelle, vous êtes le président de la Ligue de protection des oiseaux qui organisait le week-end dernier, d'ailleurs on en a parlé sur RTL, le comptage des oiseaux dans les jardins et dans les parcs. C'était la 8e année. D'abord, pourquoi cette opération ?
Parce que l'oiseau est un indicateur. Là où il s'épanouit, où il est en nombre, on constate scientifiquement que c'est l'ensemble du vivant qui s'épanouit également. Les petits mammifères, les batraciens, les insectes. Et là, au contraire, où l'oiseau disparaît, notamment on le voit inféodé aux cultures intensives agricoles avec le cortège de chimie, eh bien, tout le vivant, toute la biodiversité s'estompe. Et donc, c'est très important qu'on puisse avoir chaque année, à la même époque, une convention avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, un protocole extrêmement simple qui nous permet de faire un état des lieux. Et là, on a pu constater, on n'a pas tout dépouillé encore, d'abord qu'il y a une participation forte formidable. Mmh. Et ça, ça fait plaisir. Vraiment, les sciences participatives, nous, les enfants de Buffon, Cuvier, mmh. Lamarck et d'autres, bah, ça y est, on reprend nos racines de naturaliste, ça me plaît bien. Et donc, les gens qui vont dans un jardin public ou un jardin particulier observent pendant une heure les oiseaux qu'ils peuvent voir. Et on a vu que c'est le moineau domestique qui arrivait en
premier, le moineau domestique.
Voilà.
Mmh.
Après, c'est la mésange charbonnière qui est présente. Donc, il y a tout un cortège de, on va dire, on a une cinquantaine d'oiseaux en France de proximité. Mmh. Et ben, on voit ceux qui sont les plus présents. Et mmh. ça, c'est quand même très...
Et vous voyez peut-être aussi l'évolution. Au bout de 8 ans,
oui.
vous avez constaté...
Une perte terrible, par exemple. Tous les oiseaux qui vivent dans les zones agricoles intensives sont en déclin de 30%. Les autres se stabilisent un peu. Vous avez des espèces qui disparaissent. Le moineau friquet, par exemple, bon, qui est en déclin, pas seulement en France, mais partout ailleurs. En fait, on constate que la perte des insectes est probablement l'une des raisons essentielles de la disparition des oiseaux. Donc on en revient toujours à cette notion d'indicateur.
Parce que si les insectes diminuent en nombre, ouais. c'est lié à l'agriculture ouais. intensive, à l'usage
Tout à
des
fait.
Pesticides.
Voilà. Mmh. Et beaucoup d'oiseaux sont soit insectivores, soit nourrissent les poussins avec des chenilles. On voit également qu'avec le dérèglement climatique, il y a un décalage entre le pic de naissance des chenilles, qui est en avance globalement de 15 jours à 3 semaines, et puis le moment où les adultes nourrissent les poussins. Ouais. Et autrefois, c'était cohérent, vous voyez, quand on parlait de la nature bien faite. Ben voilà, quand il y avait le pic d'insectes, il y avait le nourrissage des poussins. Maintenant, c'est en décalage.
Et si on continue comme ça ?
Je crois qu'on ne peut pas vivre hors sol. Et ma grande inquiétude, c'est de constater que, par bonheur, on a pris conscience de la question du dérèglement climatique. On n'a pas saisi encore le drame du vivant dont nous dépendons. Et voyez, je vais aller plus loin. On est les dominants de la planète aujourd'hui. On a un devoir éthique à l'égard des plus faibles. Mmh. On ne vivra pas sans le petit peuple de la Terre. Mmh. Et c'est ce qu'on est en train de faire.
Mais vous parliez par exemple de l'usage des pesticides, ouais. notamment dans l'agriculture intensive. On voit bien, et on a eu les chiffres récemment, que ça ne diminue pas.
Non, on est bien d'accord. Et l'impact est terrible sur les insectes. 75% des insectes volants dans des espaces protégés en Allemagne ont diminué au cours de ces 15 dernières années. Mais je dois dire que j'étais cette semaine à Rennes pour remettre des prix à des municipalités qui ont décidé d'arrêter totalement les pesticides, insecticides, enfin bon, tout le chimique, y compris dans les stades de foot, y compris, bon, et la Bretagne est en train, on a beaucoup tapé sur la Bretagne, ils sont en train de faire un boulot extraordinaire. Il y a des centaines de communes qui sont engagées à ce qu'il n'y ait plus de pesticides. Ça a valeur d'exemple. Si eux l'ont fait, pourquoi pas nous ailleurs ?
Donc il y a encore de l'espoir.
Oui, tout à fait.
Et on ne doit pas forcément voir tout en noir.
Non, bien sûr.
Merci Alain Bougrain-Dubourg d'avoir refait la planète ce soir sur RTL.
Merci.
Et dans un instant sur RTL, un tout autre sujet, puisqu'on va parler voiture, mais on va parler auto de collection avec le salon Rétromobile.
On refait la planète sur RTL.